Alors, on est le vendredi 16 septembre. Nous sommes sur la place Caffo à l'occasion de la présentation du film de David Yon, La nuit et l'enfant, qui sera précédé d'un court-métrage Le Mirage et la pierre de Wahib Mortada et Lotivol. C'est dans le cadre d'une émission sur Radio Galère 88.4. Et sur cette place, nous allons essayer de voir en quoi, comment ou pourquoi le cinéma n'intéresse pas tant de gens que cela. Ou alors, si gens il y a au cinéma, ce ne sont peut-être pas des gens d'une diversité très grande. Ce serait plutôt des cinéastes ou des artistes qui vont voir d'autres cinéastes ou d'autres artistes. Enfin, c'est notre hypothèse de départ. On va essayer de la vérifier avec Wahib Mortada et David Yon, et nous allons essayer de déambuler pour voir un peu pourquoi, quoi, qui fait que les gens viennent au cinéma ou ne viennent pas. Je vous suis. On y va ?
Et Wahib, toi, c'est à partir de quand que t'es allé au cinéma ?
À partir de quand, de quel âge tu veux dire?
Ouais.
Mon premier film, je me rappelle toujours, c'était à Oujda, je devais avoir quoi, 6 ans, autour de 6 ans, 6, 7 ans. Et c'était le film de Sindbad, où mon père nous amenait pour la première fois au cinéma avec mon petit frangin. Et je voyais ces monstres et je voyais ce personnage qui vole sur son tapis. C'est extraordinaire. Donc, la première salle, je pense, on ne peut pas oublier à l'époque, il y avait des cinémas dans chaque quartier à Oujda, au Maroc. Aujourd'hui, il en reste deux. Je dirais qu'il en avait 25, peut-être plus, une trentaine, quand j'étais jeune, adolescent, à Oujda, de salle de cinéma. Aujourd'hui, il en reste que deux. Un qui est dans un état très pourri, dans une situation très délabrée. Pourtant, ça reste un petit peu le terrain de jeu de la police criminelle pour des masses. Enfin, voilà, je dirais comme ça. Et l'autre cinéma, c'est. Il a fermé. Il a été porté par un projet institutionnel qui est devenu le cinéma du Cerceau, le cinéma universitaire. Et donc, il a été fermé, définitivement. Donc, le seul cinéma qui existe aujourd'hui en tant que salle de cinéma commerciale, qui peut diffuser des films, c'est un cinéma infréquentable. Ou si tu rentres, tu risques de sortir immédiatement pour aller prendre une douche, parce que tellement ça... Voilà, c'est d'une puanteur incroyable à l'intérieur.
Mais pourquoi c'est d'une puanteur?
Parce que c'est voulu. Comme...
Pour pas que les gens viennent.
Je pense qu'au-delà des arguments économiques qu'on prétend que le cinéma ne marche pas, en plus chez nous, au Maghreb, au Maroc, et ça n'est pas une particularité parce que c'est un phénomène mondial aujourd'hui, que la projection, la réception du cinéma ne se fait plus dans les salles traditionnelles. Mais surtout chez nous, c'est parce qu'il y a toujours la question de la pudeur, la question de la nudité, la question des tabous en général. Et ça, c'est, à mon avis, c'est encore un argument supplémentaire à la censure qui frappe chez nous. Donc on n'est pas encore sorti du Moyen-Âge.
Il y a combien d'habitants à Djerada?
À peine. À Djerada, la salle de cinéma a été, pour te dire, donc entièrement démolie, et à la place, on a construit une mosquée.
D'accord. Donc, à Djerada, il n'y a pas de cinéma.
Symboliquement,
et à Oujda, il y a combien d'habitants?
À Oujda, on ne peut pas comparer Djerada à Oujda. À Oujda, c'est une grande ville, c'est la métropole de l'Oriental, c'est la porte. Ouverte vers le pays voisin.
Mais c'est 500 000 habitants.
Un million.
Beaucoup plus, oui.
Une salle de cinéma pour un million d'habitants.
On est pour les derniers recensements à plus de 800 000 habitants qui payent leurs taxes d'habitation.
Ouais. Donc, parce que j'ai dit Gerada, parce qu'en fait, le film que vous allez projeter ce soir est tourné à Gerada. Le Mirage.
Il n'y a plus de salle de cinéma. Ça.
Voilà.
Il n'y a même pas un ciné-club. Pour te dire, on a essayé en 2011 avec Lolo. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on essaye. On trouve pas. Même les gens, les locaux, ils ne sont pas convaincus, à mon avis. Les associations locales, ils n'ont pas le courage pour travailler rien que cette question précise.
Mais paradoxalement, tu sens que les gens seraient attirés par regarder des films.
Bah, je pense, c'est pour ça qu'on devrait poser déjà la question de là où on est. On va voir qu'est-ce qui se passe.
On va aller poser la question à quelques personnes. On va avoir la petite table des. Voilà, on s'approche.
On fait une émission radio. Ouais. On projette un film ce soir au Gyptis, en fait, qui est tourné en Algérie à Djelfa. J'ai réalisé. Et Wahib, avec Lo, ils ont réalisé un film tourné à Gerada au Maroc. Ouais. Ouais. Et on se demande pourquoi. Est-ce que vous allez au cinéma par exemple?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce que je travaille, j'ai pas le temps.
Et après le travail.
À quel moment tu préfères regarder des films? Est-ce qu'à la télévision? Plutôt sur internet? Comment tu. Ouais. Parce qu'il y a quand même.
Télé-tour.
Tu regardes du temps. Oui.
Ouais. Du coup, tu vas pas voir les films au cinéma.
Peut-être, hein, après, avec mon copain.
Ah ouais. Et quel type de film tu veux aller voir?
Les films dramatiques.
Dramatiques.
Aussi action.
La nuit et l'enfant, c'est un peu un film dramatique.
Je sais pas.
Ok, bah merci.
Tu vas demander aussi.
Ouais, on va leur demander.
Et vous, monsieur, vous allez au cinéma?
Quand moi, j'ai les vénères de français, j'ai oublié le cinéma le tout. Parce que quand je venais ici, j'ai juste besoin pour le travail. Pas de papier. C'est pour ça que j'ai besoin de l'argent. C'est mieux qu'il est pour le passé, le cinéma, n'importe quoi, pour le regarder. Parce que le matin de 6h, j'ai parti travailler jusqu'à 8h le soir. Et pas, comment dire, le parle français, pas de...
L'énergie, la fatigue.
Voilà, c'est pour ça qu'il est fatigué, dedans de maison. C'est pas le même que quelqu'un qui le travaille, la même française. Parce qu'il travaille beaucoup de lourd, beaucoup de merde, c'est pour ça qu'il... Il est trop fatigué, il n'est pas... L'énergie pour regarder les cinémas, c'est mieux parce que... Avant, il est turqué, beaucoup il est parti, les cinémas, je regardais les films quand il est sorti.
En Turquie, vous regardez?
Oui, en Turquie. Il est ici. Quand il travaille, il a besoin de l'argent. Il est quelqu'un, le Kurde turc aussi, il est même... Je ne sais pas, j'ai pour le voir quelque chose, même pas. Parce qu'il est toujours travaille pour le travail, travaille pour le... Pas demander quelqu'un une cigarette, n'importe quoi.
Donc c'est beaucoup lié à une question de travail et d'argent, de
oui,
temps.
Je sais, c'est pas le même quelqu'un, le Kurde, il travaille. Quand il travaille, quelqu'un, le Kurde, il est plus travail. Il est un Français, je vais faire 10 mètres carrés de carrelage. Il est un Kurde, il est faire le 70 mètres carrés de carrelage. C'est pour ça qu'il est au soir, il est trop fatigué. Jusqu'il est dedans de maison. Il pense dormir pour le demain matin. Il est posé l'autre fois. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a... Ça fait 6 ans que je suis là, il est joué, il est cinéma. Une fois, il n'est pas dedans. Je sais, c'est mieux qu'il est passé. Parce que besoin de l'argent quand je le travaille, trop fatigué. C'est pour ça qu'il n'est pas passé.
D'accord, ok. Et donc ce soir, vous allez rentrer pas trop tard.
Et je trouvais un collègue, peut-être il est passé. J'ai trouvé un collègue pour le passer. Je sais pas, peut-être j'ai trouvé.
Bah, vous nous direz, hein, on pourra vous mettre des invitations. Si à un moment vous décidez d'y aller, on a des invitations.
Et oui, c'est mieux, il est pour ça.
Bah oui, comme ça au moins, vous payez pas.
Non, c'est pas pour le paypal. Écoute-moi bien. Quand moi je passais et le boire de quelque chose, n'importe quoi, c'est pas passé pour le donner, je cherche gratuit n'importe quoi. Parce que je vais expliquer, quand il est venu, je travaille beaucoup, il est trop fatigué. Quand moi j'étais dans le cinéma, pour le regarder le cinéma, j'ai passé, c'est vrai ou pas?
Oui.
Quand moi j'étais dans le cinéma, je le laisse regarder comme ça, il est dormi. Il est à côté, à gauche, il est quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous venez ici, il est pour le dormir ou pour le regarder des films? C'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai, c'est très vrai, ouais. Ouais, ouais.
Hier, moi, je l'ai fait un mètre, un plus un mètre d'un carrelage. Et de quelqu'un, je prends pour l'imposer d'un carreau.
Eh oui, oui. Bah oui, oui. Non, non, mais c'est très juste ce que vous dites.
Je vous, sur, pas à droite, pas à gauche, direct, il parle. Je vous explique. Ouais. C'est pour ça qu'il est quelqu'un de kurde. Beaucoup, il n'a pas passé.
Alors, en Turquie, c'est de Turquie que vous êtes, que vous venez?
Oui, il est Turquie de Turquie.
D'après vous, comment ça se passe aujourd'hui par rapport aux salles de cinéma? Est-ce qu'il y en a qui ferment? Est-ce qu'il y en a qui ouvrent? Les gens, est-ce qu'ils vont en salle de cinéma en Turquie comme avant,
dans ta génération?
Et le Turquie, je sais, il y en a. En Turquie aussi, il y en a de cinéma. Quand il est Turquie, c'est pas il y a beaucoup de travail, c'est pas de chercher de travail. Plus, il y en a de l'argent pour le manger, il y en a des enfants, il est tout. Et quand il est quelqu'un qui est venu de français, direct il pense la tête gagner de l'argent. C'est pourquoi. Il y a beaucoup de quelqu'un.
Au-delà du problème oui, racial, etc., ethnique, etc. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toi? Tu es d'une génération quand même, tu dois avoir à peu près 50 ans, la 48, tu dois avoir 50 ans. Qu'est-ce que tu penses de la génération d'aujourd'hui en Turquie, les Turcs d'aujourd'hui, que ce soit kurdes ou que ce soit des Arabes, voilà.
Oui, je sais, je comprends.
Parce que, comme on parle souvent maintenant d'Internet, on parle de bon, mais la télévision, peut-être moins pour les jeunes. Comment tu vois la chose? Est-ce que les gens vont en cinéma?
Et je vous assure, je vous parle. Oui. Aujourd'hui, je bois le café. Il y en a, je pour le payer le café. Je pense demain, je pour le travail. Plus de jours, j'ai arrêté, même pas, je n'ai pas pensé. Parce que c'est pourquoi. Parce qu'il est maintenant, mais le monde. Il est beaucoup de merde. Beaucoup de merde. Il n'est pas de quelqu'un qui est tranquille, beaucoup de. Il y en a qui ont une bombe, n'importe quoi. Moi, je caractérise comme ça. Il est tout quelqu'un, il est beaucoup maintenant. J'ai énervé, j'ai pour le. Un passé d'un cinéma. Il est quelqu'un de beaucoup, il est mort. Je vais, il y en a de Facebook. Il y en a de Facebook, je vais regarder. Il est tout quelqu'un. Il est tout cinéma. Je vais regarder bien un Facebook. Parce que je vais qu'il est un quelqu'un qui est le cinéma. Mais quand il est mort, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux que je regardais. Parce que je connais qui est lui qui n'est pas mort. Quand il est dedans de Facebook, je vais regarder le coupé de la tête, n'importe quoi, il est touché. Il est. Sur certains, il est. C'est pas de cinéma, tu le regardais.
Et pourquoi tu le regardes? Pas,
oui, pourquoi moi je regardais? Parce que j'ai énervé qui? Il est quelqu'un qui il est comme ça, il est terroriste, j'ai énervé lui. J'ai compris moi ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui beaucoup de maintenant c'est pas pensé passer des cinémas pour les vacances, n'importe quoi. J'ai compris. Je vais aujourd'hui regarder parce qu'il y a beaucoup de merde de monde. C'est pour ça. Parce que je pense que quand il y a un cinéma, vous qui demandez pour moi, je passais pour. Je pense qu'il a rigolé, je pense. Pour le, un peu de rigoler, pour le je regardais, moi aussi je rigolais avec les films.
Si je comprends bien ce qu'il veut nous dire,
je parlais pas bien
oui, si je comprends bien à mon avis, ce qu'il veut nous dire, c'est que vu le climat de guerre et de catastrophe généralisée à travers le monde, oui. Les gens n'ont plus envie de rêver. C'est le cinéma, l'endroit du rêve, on a envie plutôt de suivre ce qui se passe dans la guerre, de suivre l'actualité à travers les médias de masse, que plutôt d'aller rêver.
Je vous remercie beaucoup.
Exactement.
D'accord.
C'est ça.
Je ne parle pas bien français, je comprends. Oui, je sais.
De ton cœur.
Eh oui, c'est pas je regardais avec le cœur, parce que c'est pas je.
Merci beaucoup de ce témoignage.
Ouais.
Non, non, mais on a compris. Hein.
Okay. Oui, non, parce que. Masque, ouais.
J'ai compris.
On va demander peut-être au monsieur. Merci beaucoup.
On continue notre promenade. À plus tard. Bonjour.
Bonjour. Alors, on est réalisateur et on projette ce soir des films au cinéma en face. Pourquoi ?
Ça fait 10 ans que je n'ai pas rentré. Je n'aime pas.
On a des invitations. Si ça vous intéresse, on peut vous inviter.
Non.
Non ?
Et vous n'avez jamais été au cinéma ? Vous y allez avant quand vous êtes.
Ah, oui.
Avant quand ?
Vous sentez la route. Là, c'est pas la paix.
D'accord. Okay. Ici, il n'y a pas de réponse.
Ah, ouais.
D'accord. Il n'y a pas de réponse. Vous avez pas envie. C'était la belle époque parce que vous avez vécu vraiment et nous on vit pas vraiment aujourd'hui. Vous avez vécu des choses.
J'ai pas rien du tout. La politique.
Allez.
Je suis pas dans la politique.
Non mais pas. Le cinéma. Le cinéma.
La vie maintenant c'est mortel.
Monsieur.
Mais maintenant c'est mortel.
Vous êtes plus ancien que nous. Vous savez ce que dit le proverbe, qui aime la vie va au cinéma. Et aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi.
Mais à quoi il consiste ce film-là? Quelle histoire?
Non, on ne veut pas parler que de notre film, là, de ce soir. Mais on peut vous le dire. On peut vous le dire si vous venez. Vous êtes invité, on a des invitations. Mais on voudrait savoir, vous, qu'est-ce que c'était pour vous le cinéma hier, à votre époque, et aujourd'hui? Parlez-nous un peu du cinéma aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que ça représente?
J'ai une marque de la politique. Je ne suis pas un type politique.
Mais le cinéma, c'est pas que de la politique.
Non, je n'ai pas besoin de cinéma, mais le diable. Écoute, avant oui, mais maintenant, c'est dégueulasse. Ils sont bien gênés. C'est pas une vie, ça.
C'est pas une...
Ça ne change pas la vie.
Vous voulez que vous nous partagiez un petit peu?
Hier mieux qu'aujourd'hui.
Vous avez vraiment vécu. Vous avez vécu la belle époque. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Monsieur, parce que les jeunes, ils disent à peu près. Ils disent si. Attends, on va la trouver cette pièce, on va la trouver.
Si, il y a quelque chose qui est tombé.
Elle tombe dans le cache.
Ah non, elle est là.
Ah ben voilà, il est dans le panier.
En tout cas, je vous laisse pour la lecture au moins.
Merci, messieurs.
La dame.
La dame, oui. Ok, bien. Alors. Alors, madame, vous vouliez savoir, est-ce que vous allez au cinéma, vous?
Et non.
Pourquoi vous n'allez pas au cinéma?
Je ne peux pas.
Je vais vous donner une invitation.
Je ne peux pas.
Allez, à
8h. Et quand je sors, comment je fais pour rentrer?
On vous accompagne, vous êtes dans le quartier, on vous accompagne après.
Qui c'est qui m'accompagne?
Bah nous.
Ah,
si
ouais.
Vous restez avec nous. Vous habitez loin vous habitez loin d'ici?
Saint-Maurin.
Ah bah oui, on vous accompagne. Moi je suis pas loin, je suis arrêté, donc c'est sur ma route.
Ce film là.
Ah, il y en a deux, ça finit à 10h.
Voilà. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes allé au cinéma? C'est quand?
Peut-être une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années? Et vous souvenez ce que vous êtes allé voir?
Ah ça, aucune, non.
Et pourquoi en 20 ans vous n'êtes plus allé au cinéma?
Parce que maintenant on a la télé, et puis parce que à l'époque, tout le monde allait au cinéma à la Canebière. On était plein de bijoux, plein de machins, de maquillage, tout ça. On faisait les stars. Maintenant, à la Canebière, on peut jouer au ballon. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Alors, personne n'a envie d'aller. Mais à l'époque, c'était la mode d'aller au cinéma l'après-midi. À la Canebière, il y avait beaucoup de cinéma. On pouvait y manger. Au cinéma même, toutes les salles. Il y avait des snacks, il y avait des... On pouvait manger, on pouvait boire, on pouvait regarder un film l'après-midi. On était plein de bijoux, plein de souliers à talons, des mini-jupes, et on faisait la star. La maîtresse, elle allait en slip pas enlever parce qu'il ne peut pas l'enlever, le voleur. Parce qu'elle est trop coincée, il faut qu'il me coupe les doigts. Autrement, bijoux, il n'y a plus rien. Attendez, on fait quoi là?
Et vous regardez des films quand même ou pas?
Ah ben, la télé.
Ouais, et vous regardez quoi?
Est-ce qu'il y a le programme qui a? Ouais. J'étais les aides, je regarde les aides et je regarde le programme. Il y en a pas mal.
Et pour vous, le cinéma, ça représente quoi? C'est quoi pour vous, le cinéma?
Ben, parce que le cinéma, vous savez comment il est fait. Chacun de nous, il se retrouve. Chacun de nous, il croit que cette histoire, elle est arrivée. C'est vrai, peut-être. C'est comme ça qu'il est fait, le cinéma. Chacun de nous se retrouve. Une déception d'amour, un amour fou. Ben, tout le monde a vécu ça. Alors, on se retrouve. On dit, ah, ça m'est arrivé. Ah, moi, il est amoureux. Ah, il m'a trahi, il m'a trompé. Ah, moi aussi, le mien, il a fait. C'est ça, le cinéma. C'est pour ça qu'on aime le cinéma. Chacun de nous, c'est bien fait le cinéma, c'est bien calculé. Chacun de nous, il trouve une histoire à lui. Et d'ailleurs, il est fait comme ça. J'ai un amour, mon chéri. Vous voyez pourquoi? Enfin, pourquoi vous devez le savoir?
Ah, on le sait, mais pas vraiment encore.
Alors, bon, moi, j'aime les anciens films. Et d'ailleurs, j'en trouve.
C'est quoi les anciens films, par exemple? Si vous citez-nous un ou deux films que vous avez beaucoup aimés.
La femme du boulanger.
C'est de qui ça?
Pagnol. Attendez, c'est immortel ça. Jean Gabin. Les anciens, moi j'aime parce que je suis vieille, j'aime les anciens. Maintenant les films américains, j'aimerais charger. Cette semaine j'ai vu un film de lui. Il a pris un coup de vue, mais enfin il y a longtemps qu'il a été tourné.
Et les comédies à l'ancienne, Charlie Chaplin?
Non, parce que je m'amuse pas beaucoup, moi. J'aime que les films tragédiques. Tragédique, c'est beau. Parce qu'on trouve une histoire à nous. Chacun de nous trouve son histoire. Je vous dis des bêtises, hein?
Non.
Et là, le film qui passe ce soir... C'est l'histoire d'un jeune homme qui a eu son enfance gâchée par des événements de guerre.
En Algérie. J'ai vécu la guerre d'Algérie, j'étais là-bas.
Ah bon, bah alors,
sais comment que ça se passait.
Ça peut vous parler, ce film.
Oui, parce que j'étais à un endroit d'Algérie, puis comme il y a eu la guerre... En plus, la guerre d'Algérie...
Enfin, là, c'est la guerre civile, c'est pas la guerre d'indépendance.
Ah, hein. C'est l'OS, là.
Hein? 90.
Ah,
bah,
c'est,
la...
ah, oui. C'est l'OS. Ouais. C'était terrible, ça. Ouais. C'était vraiment moche.
Vous étiez là aussi?
Oui.
Le soulèvement du fils, après l'échec des élections, les années 90, vous étiez encore en Algérie?
Je suis arrivé, c'est pas difficile, je suis arrivé en 91, début 91.
Ah ouais, vous êtes parti au bon moment, quoi.
Non, c'était pas un bon moment, c'était un moment normal. Je suis venu, c'est pas parce que j'étais pas content de l'Algérie, c'est pas parce que le régime ça n'allait pas, parce que le gouvernement qu'il y avait avant, c'était un monsieur comme il faut. Je suis venu pour une affaire de cœur.
Ah.
Et pour le cinéma.
En quelque sorte, oui. Non, pas pour le cinéma, je suis pas actrice. Je suis commerçante. Je suis venue parce qu'il m'a trop embêté. Je dis, alors tu vas voir, je m'en vais. Puis après, essayer, c'est adopter. Et comme je suis algéroise et que Marseille ressemble à Alger, ouais. J'ai dit, c'est là que je plante le drapeau. Et comme les Marseillais de l'époque, parce que les Marseillais qu'il y a maintenant, c'est pas terrible. Personne fume là, je vous en prie. Allez, servez-vous.
Merci.
Allez.
Laissez-vous aller.
Ouais, on va.
Allez, venez, mais il leur fait si froid dehors. Allez.
Une petite cigarette sur la place Cafo.
Marseille, c'était une merveille il y a quelque temps. Maintenant, elle se dégrade. Elle se dégrade dans le sens où... Merci. c'est un nouveau monde, c'est leur vie. Mais nous, on, c'est pas notre vie. Nous, on a connu les Marseillais, c'est des rigolos. Moi, quand, moi, je connaissais Marseille avant parce que je venais souvent. Mais m'installer, c'était en 1971. Les Marseillais me faisaient rire avec l'accent. C'était rigolo. C'était la bonne blague, la bonne franquette. Tout le monde aimait tout le monde. Personne ne se méfiait de personne. Maintenant, les gens se méfient de tout le monde. Même des voisins, ce monde. Parce qu'on est en train de traverser, vous, les jeunes. Vous êtes... Moi, je suis à la fin de ma vie, je m'en fous. Mais vous, les jeunes, vous êtes en train de traverser une période qui n'est pas belle. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas parce que, justement, le... est-ce que c'est pas parce que la télé a remplacé le cinéma?
Ah ben, c'est sûr, telle question. Ben, c'est sûr. Les gens, ils sont à la télé. Mais avant, on allait au cinéma. On avait la télé. Mais les programmes n'étaient pas les mêmes. Parce que... Puis en plus, c'était la mode d'aller au cinéma.
Oui, mais quand on va au cinéma, on se rend compte. On marche,
voilà, voilà, vous avez trouvé.
On voit d'autres personnes.
Il y a des rencontres. Et puis alors, nous, les femmes,
télé,
et nous, les femmes, on s'habillait bien. Chacune, elle montre qu'elle a des bijoux. L'autre, elle montre ses souliers. Il y avait Jimmy, c'était spécialiste des talons. Ah, j'ai acheté les chaussures. Jimmy, à la Canebière, c'était spécialiste des talons. Alors, chacune, ah, moi, j'ai acheté mes chaussures à Jimmy. L'autre, a acheté à Charles Jourdan. À la rue de Paradis. Alors, on montrait nos toilettes. Ah ouais, on faisait un peu les fanfarons, tout ça. On mangeait. Il y avait le Slick Snack qui fait le coin de la Canebière. Le Slick Snack, il faisait une blanquette de veau. Une blanquette de veau. Moi, je sais bien la faire, mais jamais comme ça. Alors, on sortait du cinéma, se taper une blanquette de veau.
C'était une aventure, quoi, d'aller au cinéma. C'était toute une histoire. On y allait
c'est
avec
pas
des
une
amis.
Aventure. C'est pas une aventure. C'est une sortie. C'est comme aller au restaurant à l'époque, c'est une sortie. On n'allait pas pour se nourrir. On allait pour sortir et ne pas manger ni les frites, ni l'hamburger, ni rien. On mangeait des bons plats. Des spécialités de la maison.
Et comment vous expliquez qu'on soit passé de ça à maintenant on est tout seul devant sa télé à manger des chips ou des cacahuètes?
Ça vient que les femmes elles travaillent. Et je suis bien contente qu'elles travaillent. Parce que vos arrière-grands-pères, vos meuniers, tout ça, ils ont fait souffrir les femmes. Parce que s'il avait du pognon, une fois qu'il y avait deux ou trois gosses, il se casse. La pension alimentaire, elle peut courir, hein. Surtout celle qu'on est personne. Et qui va. Même qu'elle a 30 ans, elle peut avoir 30 ans et avoir 3 gosses. Et elle est belle encore. Mais personne ne prend une femme avec 3 gosses. Le type, il a l'habitude de le célibataire, il a l'habitude d'acheter une baguette. Il a 3 gosses, il achète 4 baguettes. Personne n'a envie de ça. Et ça, c'était ça. Alors les femmes, maintenant, elles veulent plus. Et je suis d'accord avec elle. Hein. Elle ne veut plus rester à la maison, s'occuper des enfants et la cuisine. Elle veut travailler. Après, quand il est riche, qu'est-ce qu'il fait quand il a du pognon? Il se casse avec une petite minette. Attache-toi une gamelle, là. Il faisait ça, nos arrière-grands-pères, cousins. Et même si c'est pas trop loin, même, il faisait.
Mais les jeunes qui dépendent pas forcément de leur maman pour qu'ils attendent leur maman pour leur faire la manger, etc. Parce que la femme elle travaille, certes aujourd'hui, donc elle vient fatiguée le soir, elle allume la télé, les petits sont devant la télé, mais les moyens, ceux qui sont ados, pardon.
Oui.
Oui. Pareil, ils y vont plus au cinéma. Est-ce que c'est dû à.
Non, ils ont les tablettes maintenant. Non. Ils ont internet, ils ont les tablettes, ils sont au courant de tout, mais je ne sais pas quoi.
Ouais, mais on se rencontre plus.
Non, non, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, attendez. Ils ont la tablette, donc ils... Ah, foutre, ils mangent la pizza et la commande, on lui livre. Et le petit s'en fout, il aime ça, la pizza, les frites, hamburger, tout ça, il aime ça. Parce qu'on n'a pas habitué à manger les pâtes, on n'a pas habitué à manger un gratin. On n'a pas habitué à manger une blanquette, on n'a pas habitué à manger un bon couscous, comme on fait chez nous. On n'a pas habitué à manger un bon bœuf bourguignon. Il ne connaît pas ça, le petit. Les épinards, on sait que vous ne les aimez pas. Bon, et ben on l'a pas habitué, alors il mange la pizza, c'est très bon pour lui. Il commande une pizza, elle est là, la tablette.
Et quand vous habitiez à Alger, vous alliez au cinéma ?
Tous les jours.
Dans quelle
salle ? Tous les jours, tous les après-midi.
Quelle salle ?
Quelle salle ? Dans quel pays j'étais
d'abord ? Non, à Alger, quelle salle de cinéma ?
Ah ben, il y avait le Vendôme, il y avait à la rue Disney le casino, il y avait le Variété, en bas, là où il passait. Parce que les films, ils changeaient tous les mercredis, comme ici. Il y avait de nouveaux films. Il y avait le club. Il y avait tous les mercredis, il y avait un nouveau film. Enfin, on changeait les films. Et un film qui vient de sortir, par exemple, il passe au club.
Et c'est pendant la décennie noire que les cinémas ont fermé.
Comment ?
En Algérie, c'est pendant la décennie noire que les cinémas ont fermé.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
La guerre civile. C'est là, les cinémas, ils ont fermé.
Non, ils n'ont pas fermé. Il n'y avait rien de fermé. Seulement, les gens, ils avaient peur de sortir dehors.
Oui, ah oui. D'accord.
Et certains quartiers. Par exemple, les quartiers français, il ne fallait pas se frotter pour nous, les indigènes. Parce que là, ils tuaient tout le monde et plastiquaient tout le monde. D'ailleurs, ça ne durait que 3 mois quand même. Mais ils ont tué plus en 3 mois que la guerre d'Algérie, que l'armée française. La guerre d'Algérie, elle a duré 7 ans. Ils ont tué plus l'OS, plus eux en 3 mois que l'armée française en 7 ans. Parce que la guerre d'Algérie, il y avait un franc. Ça se passait dans les montagnes, dans les Aurès, dans les machines comme ça. Il y avait un franc. Nous, on était en ville, bon, on allait danser. Il y avait le couvre-feu. On allait danser. Donc, ouais, de temps en temps, il y avait une grenade, une bombe. Ça se passait pas partout. Mais le West est tiré sur tout le monde. Et surtout, un Algérien, il n'avait pas le droit d'aller à la rue Disney, par exemple. Là, il savait qu'il allait prendre de bastos.
Donc, ce qui fait que les salles de cinéma se sont vidées, alors ?
Non, c'était ouvert.
Mais il n'y avait plus personne qui y allait.
Si, selon le quartier. Si c'est un quartier arabe, il y avait des cinémas arabes, il y avait des cinémas arabes.
Et vous alliez voir quel genre de film ?
Ah non, moi j'étais pas à Alger parce que ça se passait à Alger.
Ah.
Moi j'étais à Constantine.
Ah, et vous alliez voir quel film à Constantine ?
Par exemple, tiens, après l'indépendance, j'ai vu King Kong.
King Kong ?
Ouais, madame. Il venait de sortir, ouais.
Monsieur Tunisien, il a dit que tu bois.
Donne-moi une bière, s'il te plaît. Paris. Oui.
Et est-ce que vous aviez vu Taïa Didou de Mohamed Zinet ? Taïa Didou.
Je ne crois pas, non.
Omar Gatlav de Merza Kalouach ?
Non, ça ne me dit rien.
Non.
Ça ne m'interpelle pas.
Les films algériens, vous en avez vu ou pas ?
Oui.
Lesquels, par exemple ?
La bataille d'Alger.
Ah oui.
Hein ? Par exemple, le soleil ressemble à la lune, un truc comme ça.
Le
soleil ressemble à la lune, avec une grande actrice qui s'appelle Mkoutou, tout ça. Ouais, oui, il y a eu une série de films qui ont été faits sur les événements. Ouais, je les ai vus.
Merci.
Merci beaucoup, merci madame. Beaucoup.
Et si ça vous intéresse, on vous invite pour ce soir, pour voir le film.
C'est où ?
C'est là. Voilà, c'est à 8h.
On verra si je suis pas.
Voilà.
Ou peut-être je fais une petite entrée comme ça.
Voilà, si vous voulez faire
juste
une petite entrée.
Le début, hein.
Voilà.
Super.
Vous êtes la bienvenue. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas rentré dans le cinéma.
Oui, ça c'est vrai. Bonne soirée les jeunes.
Bonne soirée.
Merci.
Où
ah.
Tu veux. Vas-y. Alors.
Est-ce que tu vas au cinéma ?
Non.
Non ? Pourquoi ?
Parce que je sais pas, j'étais jamais au cinéma.
T'es jamais allé au cinéma ?
Non, jamais.
Et quel âge tu as ?
J'ai 10 ans.
Et jusqu'à 10 ans, tu as pas été dans une salle de cinéma ?
Si, j'étais, mais c'était pas ici, c'était à la Croix-Rouge, c'était à la Valentine.
Ah, et t'as vu quel film ?
Alors j'ai vu, j'ai oublié le film, mais je suis allée, c'était bien le film.
Tu peux l'inviter, David, ce soir. Invite-le. Ce soir, tu dois rentrer. Tu peux pas venir au cinéma ce soir ou...
Je sais pas.
Si tu poses, si,
Ouais, ouais.
Si tu demandes à ton papa ou avec qui tu es là, ok.
Ouais, ok. Hein?
S'il est d'accord, tu viendrais.
Ouais.
David, il te donne une invitation à toi et à ton papa.
Oui.
Après, hein? Viens avec ton papa. C'est un film. Ouais. Ouais.
Bah, pas très compliqué, au contraire. Hein. Il y a un enfant, ça parle d'un enfant.
Mais
dans la nuit.
Aller voir ton papa. Il est où ton papa?
Là-bas.
Ah, bah, on va aller,
les voir.
Alors, nous allons voir le papa. Nous sommes toujours sur la place Cafo. C'est ça, c'est la place Cafo,
oui. Oui.
Voilà.
On projette un film. On projette un film ce soir à 8h au cinéma en face.
Oui.
Qui s'appelle La Nuit et l'Enfant. C'est tourné à Djelfa en Algérie.
Oui.
Vous connaissez Djelfa ou pas?
Djelfa, oui, je connais Djelfa, oui. Oui, je connais Djelfa.
Ah,
oui, oui, je connais Djelfa, oui. Bien, oui, oui.
Et c'est tourné alors avec des amis à Djelfa et c'est un conte.
Ouais.
C'est le soleil se lève plus et il y a un jeune, Lamine, qui marche avec un enfant, Enes.
Ah ouais.
Et ils veulent que le soleil revienne. Et en fait, Lamine raconte son enfance. Et en fait, c'est pendant son enfance, il y a eu un drame parce que c'était pendant les années 90.
Ah, à peu près, oui, oui.
Voilà.
Ah, oui.
Donc, c'est un film. Ça dure une heure et avant il y a un film de Lo et Waïb qui est tourné à Gerada au Maroc.
Ah, le Maroc, à Gerada, oui.
Et si ça vous intéresse, on peut vous inviter.
Maroc, oui. Nous sommes des voisins. Hein, le Maroc, c'est un ancien berbère déjà, le Maroc.
Ouais.
Mais maintenant, nous sommes des berbères, kabyles.
Ah oui.
Et oui, il y a presque 5000 années avant Jésus-Christ. Il y en a les berbères. Donc le Maroc, c'est des berbères comme nous. Pareil. Pareil, ouais, pareil. Mais il y a une différence de parole un petit peu.
Ouais.
Mais c'est le même langue, c'est le même visage, c'est la même. Tout, c'est la même, tout ce qu'il faut. Nous sommes des voisins, nous sommes tout ce qu'il faut. Même en Algérie, nous sommes
tous. Et vous, vous allez au cinéma des fois ou pas?
Je viens au cinéma, mais moi je ne supporte pas. La cinéma, parce que je prends beaucoup de médicaments, j'ai les accidents de travail, et tout ce qu'il faut, je ne supporte plus tout cela. C'est insupportable, même les magasins, c'est insupportable. Je préférais de sortir, d'avoir un café comme ça. Mais ma femme, si les enfants, si elle va rentrer, il n'y a pas de souci. Moi, je paye, il n'y a pas de souci, aucun problème.
Non, on vous invite.
Il n'y a pas de souci, si elle va rentrer. Moi, je préférais de rester boire un café tranquillement, je vois tout le monde comme ça.
Je vous laisse trois invitations pour votre femme et vos deux enfants.
Oui.
Si ça vous dit, c'est à 20h.
D'accord.
Juste en face.
D'accord. Voilà. Merci, c'est très gentil. Oui. Merci, c'est gentil. Voilà.
Merci.
À ce soir. Ah, Tar vient d'arriver.
Salut.
Ça va bien?
Ça va?
Ouais, ça
bonjour,
va.
Bonjour,
ça va? Et donc, on fait une émission radio en même temps où on va voir les différentes personnes. Pourquoi ils vont plus au cinéma? Et on a quelques invitations. Du coup, s'il y a des personnes en même temps qui veulent aller le voir, on peut les inviter. Quoi. Et alors, jusqu'à présent, ils vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent trop. Du coup, ils sont trop fatigués. Les personnes âgées, ça fait 10 ou 20 ans qu'ils ne sont plus allés au cinéma, ils regardent la télé. Et les jeunes, ils regardent plutôt la tablette, le téléphone portable, mais ils ne vont plus au cinéma non plus.
D'accord. Et ça, c'est juste audio.
C'est audio,
c'est votre Blas Cinéma.
Ouais, c'est ça.
Audio.
Ouais, voilà.
C'est bien.
Et toi, quel est ton point de vue sur le fait que on est en face d'un cinéma et qu'en fait, les personnes qui sont là sur cette place, finalement, ils ne rentreront pas dans ce cinéma?
Écoute, moi, j'ai connu pire que ça, ou mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as été à la cinémathèque de Tanger. Tu ne connais pas?
La
cinémathèque de Tanger, c'est évidemment une salle de cinéma, mais à l'intérieur, il y a comme un café où il y a des jeunes. C'est des jeunes scolarisés, de classe plutôt moyenne, mixte, enfin, ouvert. Et quand tu rentres l'espace quoi, de la salle, tu te dis, tu ne peux pas imaginer que ces jeunes-là ne rentrent pas dans la salle.
Ils ne rentrent pas.
Ils rentrent pas.
D'accord. Et alors, tu l'expliques comment pour toi?
J'explique le passage de la rue.
À la salle
c'est une rampe. Hein. C'est pas rien.
Ouais, ouais.
C'est pas rien, c'est pas comme quand tu franchis, c'est pas quand tu rentres dans un marché ou quand tu rentres dans un café. C'est un lieu.
Oui, cérémonial un peu.
Très cérémonial, c'est comme un lieu presque de culte.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est comme si tu demandais à des gens qui ne sont pas forcément pratiquants de rentrer dans une église. C'est pas du tout. Le fait de franchir la porte pour rentrer dans la salle, c'est un acte fort et très important. Mais c'est pas parce qu'on est proche qu'on est qu'on peut être dedans. C'est exactement comme une église, comme c'est pas comme un café. Mais alors, parce que les gens rentrent pas, la preuve, les gens rentrent pas, ne sortent pas, etc.
Mais ce que tu veux dire alors, c'est-à-dire que cette pratique un peu religieuse d'aller dans un cinéma, c'est quand même perdu alors.
Je dis que c'est quelque chose qui correspond, à mon avis, à quelque chose d'un peu, un peu ancien.
Ouais, un peu ancien.
Ouais, moi je pense que c'est un peu ancien. En tout cas, la façon dont les salles de cinéma fonctionnent pour moi aujourd'hui, je n'irai pas à dire que ça vient d'un autre temps, mais c'est dépassé. Pour moi, c'est évidemment dépassé, c'est coupé de la rue.
Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça?
Non, déjà, prenons acte de ça, parce que ce n'est pas évident. Hein, de gens pensent que les gens ne sont pas cultivés, etc. Les jeunes, ils font beaucoup de bruit, parce que moi, je fais cette expérience avec les jeunes. J'essaie de les amener dans les salles, mais je n'attends pas qu'ils viennent, ils ne viendront pas. Je discute avec eux, je montre des choses, etc. Et ensuite, je leur dis, voilà, vous pouvez venir, on va regarder, etc. Et il est clair que leur façon d'investir l'espace, de le vivre, le rapport qu'ils ont à l'image n'a pas grand-chose à voir avec celui que les gens de mon âge ont. Moi, j'ai connu le cinéma avant la télé. Moi, avant la télévision, j'ai connu le grand écran avant le petit écran. Maintenant, il y a des gens qui naissent avec le téléphone portable. L'image, ils la portent dans leur poche. Si ce que tu as dans ta poche, moi, je le prends, je le mets dans un endroit, je le ferme, ça ne t'appartient plus. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile. À part les questions économiques, évidemment, tout ça c'est lié aussi. Les gens ne vont pas te dire j'ai pas d'argent. Hein.
Ouais.
Ils ont quand même assez de dignité pour ne pas dire moi je vais pas payer quand même 5 euros, 6 euros pour entrer dans une salle noire, obscure, regarder quelque chose incertain, je sais pas ce que c'est, etc. Pour moi, ça ne m'étonne pas du tout.
Non,
je te dis, j'étais des jeunes élèves mixtes, ouverts de la crème de Tanger, ils ne rentrent pas dans la salle. Et moi, je fais le tour, je leur dis, vous savez, il y a un film, rentrez, etc. Ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Alors, cela ne veut pas dire non plus que ceux qui sont dans la salle de cinéma, ils sont privilégiés ou ils voient plus de choses. Ou mieux.
Oui, non, la question se pose pas comme ça.
Mais la salle de cinéma, c'est autre chose là. C'est...
On me demandera parce que c'est eux qui vont partir.
Il y a un système, c'est un système économique qui fonctionne comme ça. Le cinéma n'est plus un art populaire. Hein.
Il a perdu ça.
L'art populaire, cinéma, l'art populaire, c'est. Moi, je crois pas. Enfin, le cinéma tel qu'il est économiquement géré, conçu, exploité, distribué, etc. C'est pour ça que nous étonnons, nous encore, que certains films, beaucoup de films, on les voit pas dans les salles de cinéma. J'irai même plus loin, moi, en osant dire que c'est pas un lieu d'art, quoi. C'est un espace social, de socialité, où une catégorie de personnes vont, mais ça n'a pas forcément, peut-être même très peu, à voir avec le rapport qu'on pourrait avoir avec une œuvre artistique. Parce que, enfin, moi je pense que l'œuvre artistique, c'est quelque chose qui. Moi je pense que c'est pas quelque chose d'élitaire. Hein. Je pense que quand c'est un art d'aujourd'hui, ça concerne les gens. Je pense que le cinéma ne concerne pas les gens. Alors sauf après les jeunes, quand ils voient des films américains, ça c'est autre chose. Hein.
Oui, c'est
ça,
autre chose.
On est dans le consumérisme, on est dans un autre phénomène parce que c'est le prolongement de quelque chose d'autre qu'ils voient à la télé.
Mais alors, ce qui fait que toi, c'est quoi ta croyance dans le cinéma alors maintenant
Moi, ma croyance dans le cinéma, c'est comme quand je crois à l'être humain. Moi, en 1960, j'étais un enfant. Maintenant, j'ai grandi. Ça évolue, ça se développe, le cinéma. Mais les structures officielles et institutionnelles sont en retard par rapport à ce que je crois être aujourd'hui, moi, le cinéma. Parce que je crois...
Que le cinéma devrait être.
Voilà,
Et alors c'est quoi alors ce que le cinéma devrait être selon
moi, c'est autre chose. Moi je pense que nous sommes à un moment de bouleversement, de très 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 grand changement, dans lequel nous sommes nous-mêmes un peu engouffrés, on ne voit pas très clair, et que beaucoup de choses sont en train de changer, y compris le... Enfin, beaucoup de choses sont en train de changer, y compris notre désir de cinéma, il est différent. C'est-à-dire la question de la rampe elle-même, elle est à revoir totalement. Non, je ne dis pas que la salle, c'est un lieu qu'il ne faut plus fréquenter, que l'obscurité, ce n'est pas bien, que le fait de lever la tête, comme disait Godard, ou ne pas baisser la tête. Mais on n'est plus dans cette configuration. Tu baisses la tête, tu regardes la télé, tu baisses la tête, tu lèves la tête. Ça, c'était quelque chose d'un peu manichéen là-dedans. Mais ça, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Là, on est dans une réalité totalement différente où il faudrait imaginer un autre rapport entre l'extérieur et l'intérieur de la salle de cinéma. Justement, pour le moment, dans ce contexte-là de bouleversement, de changement, par un travail volontariste qui nécessite... Pour, en tout cas, les gens qui, je crois faire partie de ces gens-là, qui cherchent à promouvoir ou accompagner des œuvres, c'est à essayer d'imaginer des passerelles, des manières
que ça circule.
Voilà.
Donc c'est réinventer une modalité de circulation.
Moi, je le crois, sinon des films comme celui que nous allons voir là tout à l'heure, et on peut faire l'expérience. Moi, je peux là tout de suite proposer une expérience avec des jeunes, mais totalement en dehors du cinéma. Et tu verras l'intérêt qu'ils peuvent porter à ce film. Si on fait ce travail-là, si on sait les amener, et si on sait leur parler, leur montrer le film, et tu verras bien que ça n'a rien à voir avec l'idée selon laquelle les gens ne comprennent pas l'art, les gens sont idiots, débiles, là on est dans...
Et là par exemple, on leur a donné des invitations. Alors, est-ce que vous allez venir ou pas?
Moi je viens.
Ah, sûr?
Non, bien sûr. Ça nous intéresse.
Et est-ce que vous allez au cinéma?
Moi, je viens toujours là.
Au cinéma Les Trois Palmes et tout.
Vous allez voir quoi au cinéma?
Des films, quand il y a des films d'horreur, ou sinon des films qui m'intéressent.
C'est quoi par exemple les titres?
Il y en a un, c'est. Comment il s'appelle là? Même c'est
moi j'ai regardé déjà Mama, après je regarde les dessins animés.
On regarde tout, hein?
La bête quoi déjà?
La bête.
Non, la bête.
Ouais, comme des bêtes.
Ah, ouais. Quoi.
Moi je suis déjà venue, je regardais plein de fois, je viens tous les jours. Quand j'ai de l'argent, je viens ici.
Parce que ce soir c'est un film particulier.
Oui,
ça sera différent.
Oui, il nous a expliqué, mais moi ça m'intéresse.
Moi aussi, hein?
Ah bah c'est super, si
vous
voulez.
Vous nous avez donné les places, on va pas les jeter les places, on y va, c'est mieux. C'est mieux que rien.
Nous, on a une parole, on en tient la parole. Ah,
c'est, hein. C'est mieux qu'on repaye ou qu'on achète une autre place.
Moi j'aime beaucoup ce cinéma parce que...
Ouais, il me plaît, il y a des beaux films et tout.
Et c'est quoi pour vous le cinéma alors? C'est quoi, qu'est-ce qui fait que vous aimez le cinéma?
Ben pourquoi on se calme un petit peu?
Parce qu'il y a des films qui nous apprennent la vie, qui... Je sais pas...
D'accord.
Après, je sais pas... C'est un petit.
Non, il faudra que cette discussion-là. Et toi, tu restes après?
Oui, je viens à 8h.
Non, après.
Il y a un débat après.
Où?
Mais toujours dans le cinéma.
C'est-à-dire, après le film, on va parler.
Ouais.
C'est bien, c'est pas bien.
Ça
m'intéresse, ça m'intéresse pas.
Ah non, on va rester.
Après, il faut continuer la conversation après. C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
C'est après de continuer la discussion.
Vos parents, ils vous laissent venir?
Oui, on habite là.
Ben oui, parce qu'ils vont faire 18 ans dans 4 jours. Et comme je suis.
Non, on habite juste là, en fait,
juste en face.
Oui,
mais on habite pas à la Juliette ou je sais pas, moi, on habite juste là.
Ah oui, c'est votre quartier, quoi.
On ne crée rien,
ouais.
Moi, depuis un an.
Et vous y allez dans cette salle?
Ouais, depuis.
Moi, depuis que j'habite là, je suis plus retournée au cinéma et ça m'avait manqué. Et comme j'ai vu.
Moi, je suis déjà allée, moi aussi.
Dans cette salle-là?
Il y a des films, on a regardé la maison,
la bête, comme des bêtes, je crois que ça s'appelait.
C'est un dessin animé, ouais.
Ouais.
Ok, bon, on espère vous voir tout à l'heure.
Oui,
alors.
On n'a qu'une parole, on viendra.
Ok, bon, super, merci.
À tout à l'heure.
C'est pour un. On fait une émission de radio sur la question de c'est quoi le cinéma.
Est-ce que vous voulez venir ce soir à 8h au cinéma?
Okay. Ici, là?
Ouais.
Oui.
Vous pouvez?
Oui, on peut venir.
Vos parents vous autorisent?
Oui.
Ça va, j'ai internet. Alors, je vais vous montrer. Tu m'as
donné deux tickets? Tiens.
Alors, c'est un film qui s'appelle...
Vous êtes assis là?
Ouais. Assis-toi.
La nuit et les enfants.
La nuit et l'enfant. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé en Algérie?
Oui.
Ah bah alors, c'est un film tourné en Algérie.
C'est en Algérie.
À Djelfa.
À Djelfa.
Vous connaissez Djelfa ou pas?
Non.
C'est 300 km au sud d'Algérie. Vous êtes allé où en Algérie?
À Oran.
Ok. Bah, c'est à Djelfa et c'est l'histoire d'un jeune.
Lui.
Lamine.
Lui.
Lui. Et qui a eu un drame pendant son enfance et le soleil se lève plus et il marche avec un enfant et il se rappelle son enfance et quand la peur passe, le soleil se lèvera. C'est un peu un film d'aventure. Ça vous intéresse?
Ouais.
Ok.
Certain.
Ok. Bon voilà. Du coup c'est gratuit, c'est à 8h.
On rentre, on donne ça.
Ouais,
ça dure combien de temps?
Alors il y a un premier film que Lo a fait avec Wahib. 1h20. Ok, bon, bon,
tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors,
et donc,
Wahib
est venu accompagner, donc présente-nous. Alors, c'est une émission radio, je ne sais pas si on t'a dit, mais on enregistre la discussion.
Et il va se présenter. Ouais.
Quelle radio?
Radio Galère.
Ah, ouais, je connais.
Donc,
voilà, c'est Ahmed Hanifi, entre autres écrivain, auteur. Et éditeur, il est aussi dans la coopération entre l'Algérie et la France puisqu'il anime des ateliers d'écriture avec l'Institut français entre Alger
entre
et Oran.
Autres, ouais.
Et puis je le laisse parler de ses activités et de la place du cinéma dans la littérature.
Dans la littérature, c'est beaucoup... Non, c'est...
Enfin, non, c'est la place du cinéma, pour la question qu'on essaie de se poser, c'est un peu de savoir... qu'est-ce qui fait que les salles de cinéma ont été un peu délaissées?
Voilà.
Et qu'est-ce qui est important de réinventer pour soit que soit remplir les salles de cinéma ou soit peut-être autre chose? Et on aimerait avoir ton avis.
Qu'est-ce qui fait que les salles de cinéma ne sont plus ce qu'elles étaient? Alors, la communication a changé. La relation entre les gens dans la cité, les relations ont changé. Et puis le point le plus fort, ce sont effectivement ces mini-cinémas qui se trouvent dans chaque chambre chez chacun, et qui fait que c'est un des éléments qui fait que les gens ont déserté le cinéma. La cherté, après, c'est autre chose. La cherté des billets, comment dire, la paupérisation des populations qui mettent en avant plus l'habillement, plus la nourriture que les loisirs de manière générale. Voilà, de mon point de vue, ce qui fait que les gens ont déserté. Ça dépend des lieux aussi, parce qu'il y a des lieux où le cinéma est très très présent. Il y a des particularismes, il y a le cinéma... ici on l'appelle cinéma d'art et d'essai, mais à Paris... il y a des lieux qui sont extrêmement bien fréquentés. Voilà, mais de manière générale, il y a peut-être aussi la capacité de ce qu'on présente, en fait, ce qu'on présente au public, quel type de cinéma on présente aux gens. Il y a peut-être tout ça qui fait que, bon, voilà, ce n'est plus le cinéma d'avant. Il y a la multiplicité des salles aussi qui jouent. Voilà.
Et toi, tu as découvert le cinéma comment ?
Alors moi, je suis pas un fanatique du cinéma. Je suis plutôt dans la littérature, dans tout ce qui s'écrit, dans tout ce qui se lit. Mais le cinéma, j'étais un supporter quand j'avais 10-12 ans. En Algérie, à l'époque, les cinémas étaient gratuits pour les enfants. Et on allait dans toutes les salles, à des moments précis de la semaine. Et on nous projetait des films, on pouvait y rester. Ça s'appelait du cinéma permanent, c'est-à-dire qu'il passait le film de manière régulière pendant 3 ou 4 heures, sans arrêt. Et voilà, on a vu tout ce qu'on pouvait voir quand on était, je dis 12 ans, de 12 à 17 ans.
Là,
c'était une période assez longue.
Ah ouais,
voilà.
D'accord.
Puis après, donc, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui regardent beaucoup les films chez soi.
D'accord,
voilà.
D'accord. Et tu penses qu'on peut que cette pratique de regarder les films chez soi est aussi intéressante d'une certaine manière?
Je pense qu'elle est aussi intéressante, sinon que ce qui faisait la particularité, la sympathie des films lorsqu'on allait les voir à l'extérieur, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges autour du film, sur les acteurs, sur l'appréciation des uns et des autres du film, etc., qui était assez importante. C'était, on était on peut être 10, 12 ou 5, 6, et échanger autour du film. Ça ne se fait plus sinon à la maison entre, entre
c'est devenu une pratique plus,
ou entre les enfants. Voilà. Comme on connaît l'appréciation de celui qui vit avec soi, donc il y a
moins d'échanges,
moins de surprises et moins de...
Voilà. Ah ouais. Moins de dialectique.
Oui, tout à fait. Ouais.
D'accord, ouais. Okay. D'accord.
C'est-à-dire que l'essentiel dans et l'échange qui peut se passer à travers le regard que l'on peut avoir les uns et les autres sur les films, c'est l'expression de ses propres émotions et de comparer nos émotions mutuellement.
Se rencontrer, quoi.
C'est ça la vraie rencontre. C'est de pouvoir enfin s'avouer et avouer ses émotions. Et aujourd'hui, le fait qu'on regarde son film chez soi et tout ça, c'est comme si on emprisonne ses émotions, on se les garde pour soi. Voilà. Et là-dessus, je pense que oui, il y a un changement.
Oui, c'est vrai, à tel point que quand je parlais de quand on était gamin, ouais. Nous, on encourageait l'acteur à taper plus fort,
en criant,
on applaudit.
Il y avait quelque chose comme même. On extériorisait, ça pouvait des fois avoir un effet de catharsis, d'une journée qui avait été très dure, on avait vu un film et on respirait. Alors que là, quand on est chez soi, ça se déplace pas.
Ça se passe autrement. Ça puis se on passe est... autrement, ouais. Enfin, moi, je dis tout ce que je dis là, à partir de l'âge que j'ai. C'est-à-dire que j'ai 3 fois 20 ans, donc j'ai pas la même appréciation. C'est-à-dire que même s'il fallait dire des choses, extérioriser des choses, etc., je le ferais différemment, même dans un cinéma. Plus pas comme lorsqu'on a 20 ans, etc. Voilà. Voilà.
Bon, on va continuer.
Hein? Puisque c'est la radio trottoir finalement. Bah, donc,
la radio, on va peut-être se rasseoir pour finir l'émission. On amène des chaises. Pour. Voilà, toujours à la place CAFO. Avec David Yon, Wahid Mortada, Tahar Chikaoui. Le vent se lève. Il est 18h30. Donc voilà, alors David, toi qui as voulu initier cette petite promenade sonore pour répondre à quelques questions qui te hantent, qui nous hantent, je délègue, as-tu quelques pistes de réponse? Qu'est-ce que ça t'a...
Tu sais, il y a des crayons.
En tout cas, je pense que c'est en faisant un travail auprès des jeunes que... petit à petit, les salles peuvent revivre. Ouais. Là, la Nuit l'enfant, il est sorti à Paris la semaine dernière, et il y a une professeure d'une option cinéma qui a choisi le film pour que ses étudiants travaillent sur des critiques. Et du coup, c'est des lycéens qui sont venus, et c'était hyper intéressant. Leurs remarques, leur façon de parler du film, ils n'avaient pas tous les codes qu'on a nous de cinéphiles et c'est assez joyeux ça. On faudrait plus aller dans les écoles, dans les lycées, là comme tu parlais de l'école de la deuxième chance aussi, dans ces endroits où on se forme finalement, c'est l'éducation aussi. Ouais. Parce que les nouveaux outils technologiques sont tellement forts que si nous, on ne fait pas ce travail d'emmener les gens voir des films dans une salle, je pense que petit à petit, il va y avoir plus beaucoup de... Les salles vont se vider, oui. Après, sur la question de pourquoi les gens qui sont sur cette place ne vont pas dans la salle en face, y a la question de l'argent culturel, de la fatigue et y a, à un moment il y a ce monsieur qui disait maintenant je regarde la télé, avant j'allais au cinéma et aujourd'hui la jeunesse où elle rêve plus, il s'est dit quelque chose un peu comme ça,
la jeunesse
ne rêve plus. Enfin, que le passage du cinéma à la télé, internet, finalement, c'était la fin d'un, la fin d'un rêve, quoi. Et il y a un autre qui nous a dit quelque chose d'étrange, que par rapport à tout ce qui se passe d'horrible dans le monde, bah lui, il regarde les, sur son téléphone portable les...
La réalité.
Ouais, la réalité.
Elle est plus forte que nous.
Ouais. Donc c'était intéressant, hein.
Ouais, c'est intéressant, ouais. Ah ouais, cette remarque de la réalité qui est plus forte que la fiction, ça...
Et que maintenant, elle est accessible à n'importe qui sur son téléphone portable.
Avant, c'est arrivé une fois. Hitchcock, ça lui est arrivé une seule fois dans sa vie. Avec le faux coupable. C'est une seule fois. Tu connais le faux coupable de Langman?
Je l'ai avec
Henry Fonda. Parce que Hitchcock, il raconte toujours des histoires, quoi. Et un jour, il tombe sur un fait divers qui l'a impressionné. Il a dit, j'ai toujours pensé que ce que je racontais était plus fort que la réalité. Là, je tombe sur quelque chose qui est bien plus fort. Et il fait un film là-dessus, qui est un film de fiction aussi, enfin, de reconstitution. Et c'est la première fois où il apparaît au début, pas au milieu du film. Parce que souvent, Hitchcock, il fait un passage juste comme signature, enfin quelque chose. Juste pour que les gens disent, ah, c'est lui, ou c'est pas. Et là, dans ce film-là, il apparaît en premier, comme dans un théâtre. Avec la lumière sur lui, il dit, je vais vous montrer un film, ce film-là. Moi, jusqu'ici, j'ai fait des films, etc. Il répète la phrase. J'ai fait des films, je pensais. Et là, je me rends compte que la réalité, elle dépasse parfois de loin la fiction. Mais ça, ça arrive aujourd'hui, c'est le principe.
Mais c'est devenu du commun aujourd'hui.
C'est le principe, enfin. Bon, c'est vrai que j'ai assisté en direct, en direct de chez moi. Autour jumelle, avion, etc. Et ça, c'est une image qui sort du cinéma. C'est un genre.
Oui. Un genre. Américain, le cinéma
c'est un genre. Américain. C'est un genre. Il n'y a pas à dire, quoi. Voilà, après, c'est devenu la réalité. Parce que le cinéaste, il voyait aussi des choses. Hein. Et c'est pour ça que aussi, peut-être, il faut voir, montrer autre chose, justement. Mm. D'où est-ce que le récit... Pardon.
Non, je disais, c'est très imbriqué.
Ouais.
La fiction et le réel, c'est...
Oui. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que je ne peux, j'allais dire, écrire de fiction, de réaliser une fiction qu'à partir de ce que je, de mon vécu. Donc, à partir de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et donc c'est complètement imbriqué.
Les littéraires, ils le savent depuis longtemps.
Ouais.
En littérature, les peintres, ils le savent.
Oui.
Mais au cinéma, le cinéma, il traîne un peu. Il est un peu en retard à cause du commerce, à cause de l'argent.
Non.
Ça emprisonne.
C'est ce qu'on a vu un petit peu aussi dans les propositions du festival du film, le FID, à Marseille. C'est-à-dire cette programmation qui montre aujourd'hui des auteurs qui sont en plein guerre, en Irak, en Syrie, et qui filment le film de la réalité. On dirait presque qu'on est dans la fiction. Mais pourtant, c'est les mêmes images à peu près qu'on voit à la télévision. Simplement qu'avec l'auteur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on découvre de vraies personnes, quoi. On parle à la personne, on ne parle pas, on ne commente pas sur les personnes, ce qu'ils sont en train de vivre. C'est la personne elle-même qui s'avoue à nous, et donc on est dans la réalité fiction.
Tu avais commencé une phrase d'affaire, tu disais, mais donc, ça serait intéressant que les cinéastes se posent la question de faire autrement des films, ou fassent d'autres narrations. Tu avais commencé par ce phénomène-là.
Par rapport au récit. Parce qu'il y a des gens qui te disent, c'est pas un film ça, parce qu'il n'y a pas un récit. En fait, il n'y a pas une forme de narration. En fait, ils croient que le récit, c'est une histoire qu'on raconte de manière classique. Il y a toujours un récit. Là, on est en train de raconter des choses, quoi. Et aujourd'hui, on ne peut plus raconter des histoires comme on les racontait dans les années 30 ou 40. D'ailleurs, ça a changé dans l'histoire. Dans les années 20, c'était une chose. Les années 30, ça a changé. Les années 40, ça a changé. C'est après la guerre. Après la guerre, ce qu'on appelle nous le néo-réalisme en histoire, du cinéma, etc. C'était simplement que les John Ford, les Raoul Walsh, comment ils s'appellent, ils ont participé à la guerre. C'est pour ça qu'il a perdu un œil, John Ford. Et là, ils ont vu autre chose. Et du coup, leur cinéma a changé. C'est parce qu'ils ont découvert la guerre que le plan est devenu plus long. Et l'idée qu'ils ont de la réalité a changé. On ne raconte plus les histoires de la même manière. Aujourd'hui, tu ne peux pas raconter une histoire comme on l'a raconté dans les années 70 à un gamin comme ceux qui étaient là, avec, tu vois, avec tous les, etc. C'est ancien. C'est comme si on ne pouvait, on peut plus raconter l'Iliade et l'Odyssée aujourd'hui de cette manière-là. Je ne dis pas qu'on ne peut plus dire ça, les idées qu'il y a dedans. Je ne parle pas des idées, attention, je parle des modes
de forme.
Voilà, les formes
de narration.
De narration. Elles ont changé. Donc, tu peux bien montrer un film comme tu dis si bien, où c'est la réalité, mais il y a une histoire, où il y a des choses. Parce que le rapport à l'imaginaire, le monsieur disait, il ne rêve plus. En fait, il ne rêve plus comme lui. Les jeunes, ils n'ont plus le même rapport à l'imaginaire que lui. Ce n'est pas qu'ils ne rêvent plus. Ils ne sont pas plats. Ce n'est pas vrai, les jeunes. C'est faux, archi faux, ça. Mais ils ne se représentent pas sur le mode fictionnel le monde comme moi je me le représentais dans les années 70. Il fallait que je rentre chez moi, dans ma chambre, etc. Rapport au livre, au roman, etc. Donc le film était très très proche de la littérature, le cinéma. Récit, il faut raconter le personnage, il faut l'installer, scène d'exposition, plan master, je ne sais pas quoi, préparer le premier machin. C'est fini, on est dans un autre contexte, on est dans une autre. Alors il y a des cinéastes qui s'adaptent, qui savent, parce qu'ils sont
en prise avec le réel.
Ils sont en prise parce qu'ils regardent, ils voient, et d'autres qui sont dans un système économique savent que ça marche. Les gens ne mangent plus de pizza, c'est pas très bon, etc. Mais enfin, économiquement, si tu n'ouvres pas une pizzeria, ça marche pas, t'as pas d'argent, etc. Donc les gens, ils font des films, des macarons, comme on dit chez nous en arabe, c'est-à-dire des macaronis. Ils font des trucs, voilà, en série, quoi, c'est tout. Mais ceux qui sont courageux et ceux qui courent des risques, parce que tu vas pas gagner d'argent là-dedans, ils font autre chose. Voilà, le film de David, c'est un film, il a une histoire, plus qu'une histoire, c'est fantastique, c'est lui-même qui utilise le mot. C'est plus que fantastique, c'est au-delà du récit. Mais bon, là, évidemment, c'est... Moi, je pense pas que le public ou les jeunes, je pense pas qu'ils soient en retrait par rapport à ça, et en retard. Je crois, personnellement, pas pour faire de la démagogie, c'est l'institution qui est en retard. Elle répond pas.
Elles prennent la pâte.
Ben oui, c'est comme quand tu n'as pas beaucoup mangé, après on te donne un plat consistant, tu as du mal, tu ne peux pas. Tu amènes un plat de melochia comme moi, je connais, les gens ils préfèrent manger, ils ne peuvent pas le digérer. Ils sont habitués aux hamburgers, à la pizzeria, ils ne peuvent pas. Mais si tu lui amènes petit à petit le plat, et parce que ça correspond à un besoin réel, physique ou psychique réel, mais le corps s'habitue, l'esprit s'habitue aussi. Hein. Ça existe l'aliénation. On peut habituer les gens, ils peuvent. Mais si tu nous montres le truc, mais tu le lui montres bien, tu l'accompagnes parce que tu y crois. Moi, c'est ce que je fais dans mon association. Je dis, moi, ces jeunes-là, ils peuvent voir des films comme ça. Et j'y vais. J'y vais avec la conviction. Ce n'est pas une technique apprise à l'école. On ne m'a jamais appris à faire ça. Et ça marche. Ça marche plus qu'avec les gens intellectuels. J'ai fait l'expérience, moi, quand j'étais dans la FLA. Parce que je montrais le film trois fois. Je le montrais une fois au. L'après-midi, c'est les Marseillais cultivés qui viennent, etc., formatés, etc., que je ne méprise pas, mais qui sont conditionnés. Et eux, ils sont fermés. Et les jeunes qui racontent parfois n'importe quoi, ils sont plus ouverts, ils te posent de vraies questions. Ils te posent de vraies questions, ils te disent c'est un film, ça, pour moi c'est une question, ça, ils te disent c'est un film, ça, ça c'est une question. Ils te disent est-ce que c'est un film ce que vous faites ? Le gars, l'autre, il dit pas. Il voit bien que c'est un truc étrange, bizarre, insolite, il n'ose pas. Parce qu'il a peur d'être ridicule, parce que tu risques de lui dire oui, mais tu comprends rien, etc. Mais le jeune, il te dit est-ce que c'est un film ça ? Ce que tu as fait, c'est un film ? Là, il faut lui répondre. Réponds-lui. Dis-lui que c'est un film.
Pourquoi ?
Parce que lui, il n'a pas de tabou, il n'a pas de. Etc. C'est pas qu'il est bête, il n'est pas bête, il est juste. Peut-être qu'il n'est pas entre guillemets cultivé, mais il n'est pas encombré. Son esprit n'est pas encombré de culture. Parce que c'est surtout en France. Surtout en France, la culture c'est lourd, c'est trop lourd, c'est bloqué, ça bloque, c'est intimidant, c'est terrible, c'est une guerre quoi, la culture.
Oui, et puis là tu reviens des rencontres de cinéma à Béjaïa, et où on y était, c'est vrai que même si. On voit déjà quelque chose de différent.
Ouais, même quand tu poses des questions, tu dis bah, qu'est-ce que c'est bête. Mais en fait, c'est pas bête.
Non, il pose des questions, c'est assez
cru. De vraies questions. Bah,
c'est
oui.
Direct, c'est franc.
On revient encore une fois à la forme. Parce qu'on peut mettre la forme dans une question, donner l'impression qu'on pose une question intelligente alors que c'est rien. Ouais. Et puis, on peut poser une question de façon très, très. Naïve. Comme ça, sans aucune forme. Et on se dit le type, il est bête alors qu'il est pas bête. Il dit, qu'est-ce que c'est un film. Ton film, est-ce que c'est un film. moi ça m'intéresse quand il me dit ça. Est-ce que ce que tu as fait c'est un film? Il faut lui répondre. Pourquoi c'est pas une question ça? Qu'est-ce que c'est qu'un film? Va poser la question à des filmologues, c'est quoi un film? Déjà, le mot qu'ils ont fait.
Sitar, il dit que l'être intellectuel, les gens intellectuels, c'est plus des êtres naturels. Quoi. Ils ont perdu l'être naturel pour être dans un être sophistiqué. C'est comme les jardins aujourd'hui, on les entoure d'un grillage. Il est où le jardin? Il est derrière le grillage.
Ça, c'est la nature. Ils considèrent que c'est ça la nature. Et quand ils sont dans la nature, c'est sauvage, ils ont peur. Ça, surtout en France, hein, moi je dis bien surtout en France. En France, c'était, moi je fais l'expérience, je vais en Tunisie, je vais en Algérie, dans des pays où parfois il n'y a pas de cinéma, je vais en Égypte, etc. Ou même dans... C'est trop lourd, quoi. C'est la culture, c'est écrasant, c'est aliénant, c'est terrible. Les gens ont peur. Ils ont peur de dire une connerie, ils ont peur de leur dire ah non, moi, je, cinéma, je ne connais pas et tout, ils ont peur. Du coup, si tu as peur, c'est fini. Tu as peur devant. T'as peur.
C'est-à-dire que t'as peur de la vie, quoi.
Et ça nous ramène à quelque chose, parce que tout à l'heure, avec la il y avait trois Chibanis qui étaient là au milieu, et on voulait leur poser la même question qu'on a posée à la première table. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah non, on ne répond pas à vos questions, on en a marre de la politique. Mais monsieur, on ne va pas parler de politique.
Ouais, parce qu'ils vont sortir pour la télé.
Et là, quelque part, oui, il y a une part de vérité, parce que finalement, oui, non, mais... Ils ne sont pas aussi cons que ça. Hein. Ils ont entendu les questions qu'on posait à la table juste à côté. Mais parce que le cinéma, parce qu'on n'a pas répété plusieurs fois que c'est de cinéma, on veut parler du cinéma, de votre époque. Vous avez vécu une vraie époque, une belle époque. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Parlez-nous un peu du cinéma. Pour eux, c'est de la politique, parce que c'est vrai que cette... il me semble qu'il y a...
Un manque de moment. Ça ramène à la question.
Mais ça, c'est parce que c'est le dispositif. Si vous arrivez comme ça tout d'un coup, mais si vous, on reste là plusieurs jours, on commence à discuter, on met à la télé, on amène le film à la télé là. Voilà, on demande, on va regarder tout seul, on regarde tout ce que vous faites, etc. Ouais. Là, ça va changer.
Il y a une méfiance là, ouais.
Bah oui, parce que tu amènes, là pour eux, c'est la télé qui arrive, c'est le pouvoir qui vient, c'est l'institution. C'est...
Et moi, j'apprends aujourd'hui par David, et j'apprends par vous que. Franchement, je suis sûr que c'est la démarche la plus risquée, la plus osée, d'aller faire passer encore aujourd'hui le message du cinéma auprès d'un public que très souvent on dit que c'est des ignares, c'est des gens qui n'accèdent à rien du tout, qui ne peuvent pas accéder à la culture. Et au contraire, c'est à travers eux qu'on découvre que c'est l'être vraiment naturel, c'est à travers cet être naturel qu'on peut vraiment ne pas se... On ne peut pas se tromper de toute façon, on n'est que dans la vérité, on peut être que dans la...
Oui, parce qu'ils sont vierges de ça. C'est comme les enfants. Je ne sais pas si tu as passé le film déjà à des enfants. On peut le faire dans une école.
Ouais.
On peut le faire dans une école primaire.
Ouais,
qu'est-ce qu'ils vont... Oui, tu vas voir. Tu vas voir les questions qu'ils vont te poser. Tu t'étonnes. Bah, encore faut-il entendre les questions, parce qu'on peut... parce qu'elle peut ne pas avoir la forme d'une question. Mais enfin, ils réagissent, les gens. Quoi. Putain, c'est quand même... C'est une... Je sais pas comment dire, mais ce qu'on oublie aussi au début, le cinéma, comment c'était au début dans l'art forain, le cinéma forain, le cinéma primitif, quand les gens parlaient, fumaient, etc. Après, ils se sont civilisés.
Ils se sont...
Oui, mais c'était ça le cinéma, le cinématographe, c'était ça. Ils se sont civilisés parce que, voilà, il y a eu aussi des règles. On a établi des règles, parce qu'il y a de l'argent, l'économie, etc., des incendies, etc., des autorités. On est civilisé. C'est comme si, à force de se nettoyer, de se protéger, etc., tu ne vis plus. Ça arrive aussi dans la vie. Tu prends des médicaments, tu ne sais pas, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela pour vivre longtemps. Mais ton corps n'est plus immunisé. L'art, c'est ça, c'est la vie, c'est mélangé, c'est impur, c'est risqué, c'est sale, c'est... Je ne dis pas qu'il faut le bordel, le bordel généralisé, mais là, où, moi, je vois des... Moi, j'étais comme ça, hein. Je change à chaque fois, c'est-à-dire au contact de la réalité. À chaque fois, je suis obligé de me dire, tiens, je ne dois pas me comporter comme ça. Avec mes étudiants, j'étais avant très, très dur. Je les engueulais, mais tu as un film, levez la tête, regardez, ne discutez pas, etc. Et moi, je vois dans les salles de cinéma... les vieux de mon âge ou plus vieux, dès qu'il y a un gamin qui ressent, etc., ils sont scandalisés, ils font un bordel et tout. Enfin, je veux dire, attends, c'est sa culture, quoi. Lui, il a notre rapport. Il faut appris. D'accord. Tu peux penser qu'il faut qu'il se concentre, oui, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas en réagissant comme ça que. Parce que moi, je suis pas sûr que le gars qui est comme ça lève la tête et il a forcément. Parce qu'il est discipliné. Il est juste discipliné. C'est comme les étudiants, tu es un étudiant discipliné, etc. Il souligne, il majuscule, en rouge, tout est propre, etc. C'est moyen. Et l'autre qui est brouillon, il arrive en retard, il est, etc. Et puis il est brillant, le type, il est génial. C'est tout, il faut juste voir, quoi. Non Moi j'ai connu le cinéma à une époque où quand je rentrais dans la salle de cinéma, c'est quand il y avait un baiser. Abéja, c'est une ville de province en Tunisie. Bon, alors, ça parlait hein, dans la salle. Et quand il y a un baiser, oh il y a un sou, ça. Déjà, tu entends des gens, c'était sympathique, quoi. Je me marrais. Et les gens ils réagissaient. Quand Marc Forest arrive comme ça, parce qu'il n'arrive pas tout de suite, tu sais, c'est quand il y a vraiment des problèmes, ça s'aggrave, tu sais, le héros qui arrive un peu après, parce qu'on attend. Et quand il arrive, les gens applaudissent, tout le monde applaudit, etc. C'est comme ça que j'ai connu le cinéma, c'est comme ça que je suis devenu cinéphile. Ça n'a pas gâché mon esprit, ça n'a pas déformé mon esprit. Au contraire.
C'est un spectacle aussi.
Ben oui, après, bien sûr, moi je veux bien que les gens se taisent dans une salle, etc. Mais qu'ils le fassent d'eux-mêmes, quoi. Que ce ne soit pas parce qu'il faut faire comme ça, je le fais.
Je peux poser une question à Sermid,
ouais.
qui peut peut-être sortir un peu du sujet, mais par rapport justement à cette question, est-ce que devant le cinéma, on doit réagir ou on doit plutôt faire parler le silence? Puisque Sermid, c'est un homme de lettres, donc comme il s'est présenté tout à l'heure, il travaille le roman, et je suis sûr qu'un écrivain comme un romancier comme toi, Sermid, quand tu écris, le roman, tu vois déjà, tu vois le film.
Je me fais mon cinéma, oui.
Tu te fais ton cinéma. Raconte-nous un peu l'expérience de ce cinéma, parce que là aussi, le livre, il est déserté. Hein. Il n'y a pas que le cinéma, le livre, lui aussi.
La
littérature en général, la lecture. C'est un grand désert aussi. Donc, est-ce que tu peux nous faire ce rapprochement un peu sur les...
Sur l'écriture, les techniques d'écriture, sur comment on écrit.
Le roman, le cinéma et le désert, quoi.
C'est exactement... je pense, de mon point de vue, que c'est exactement... Ça doit être exact. Il me semble que c'est la même chose. C'est une idée. C'est un réel. C'est quelque chose qu'on a vu dans la vie. Quelque chose qui nous a marqué dans la vie. Donc c'est plus qu'une idée. C'est une réalité. C'est cette réalité-là. C'est de cette réalité-là qu'on se fait une idée et qu'ensuite on va décortiquer, qu'on va agencer, qu'on va élaborer, etc. J'ai plusieurs fois entendu des écrivains dire que moi, je commence une phrase et ensuite le livre s'écrit par lui-même. Personnellement, je ne sais pas faire ça. Il y a une architecture. Si je ne construis pas, si je ne fais pas une architecture, si je ne construis pas le socle, si je ne sais pas, si je ne... Je ne construis pas la terrasse, tout ce qui fait un bouquin, c'est-à-dire les différentes séquences, et jusqu'à la fin, je ne peux pas écrire. C'est-à-dire qu'il me faut l'architecture. Et ensuite seulement, j'étoffe les personnages selon leur importance, je leur donne plus ou moins de l'importance, et ensuite le récit avance, etc.
Et je pense... du cinéma, parce que le cinéma... La structure, c'est le montage, et le montage, c'est la dernière étape.
C'est le montage.
Ouais.
C'est le montage. Là, je suis dans le montage. Je parlais d'architecture. L'architecture, c'est un peu ce mot. C'est tout ça. Hein ? Ça va jusqu'à 45 chapitres. Et une fois qu'ils ont été agencés, ces chapitres-là, celui-ci était 39, il est passé à 44, ce sont deux histoires qui se croisent, deux histoires d'individus qui se croisent, et c'est une histoire de haine, etc. Et donc, mais l'architecture, elle ne finit jamais jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la construction, elle est toujours présente, et plus à la fin, parce qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas au début. On avait l'impression que, tiens, ça va s'avancer de cette manière, et au fur et à mesure que l'histoire avance, que les personnages sont interviennent, etc. Donc on modifie notre approche, notre
chemin faisant.
Tout à fait, oui. Tout en écrivant, on modifie, on agence, etc., etc. jusqu'à la fin. Donc le montage, il s'effectue effectivement.
Et est-ce que vous rêvez de votre histoire?
Plus l'articulation est évidente.
Est-ce qu'il y a des idées qui viennent de vos rêves? Alors, quand vous commencez à écrire, vous réveillez le matin, vous avez une image.
En pleine nuit, l'idée me vient dans le rêve. Enfin, je me lève et je vais dire, ne pas oublier. Je mets une phrase et je repars me coucher. Je peux pas.
En pleine nuit, c'est-à-dire vous dormez, vous réveillez ou...
Oui, en pleine nuit, ça m'arrive de avec une idée pink. Tout de suite, j'ai besoin de me réveiller parce que je vais l'oublier sinon. Et donc, c'est pour ça que je suis un malade des carnets. Je suis constamment avec des carnets, même dans la vie, tu vois, je fais des carnets tout le temps. Tout le temps. Un numéro combien, celui-là?
22.
Tout le temps, des idées partout. Il y a des gens qui fonctionnent sans carnet parce qu'ils ont de la mémoire formidable. Ils ont une mémoire phénoménale. Moi, je n'en ai pas. Donc, j'écris, je toujours carnet. Ouais. Donc l'architecture.
Il y a l'histoire du polygone étoilé de Katabiassine où il avait écrit comme ça sur des feuilles. Et je crois que le feuillet s'est renversé, du coup tout était mélangé et c'est sorti dans cet ordre-là. Enfin, je sais pas si vrai cette histoire-là. Bah,
ils aiment bien les petites histoires arrangées aussi. Faulkner le faisait aussi. C'est un malade. Enfin, je veux dire, William Faulkner, il écrivait partout, dans les toilettes, dans les WC, il mettait des feuilles blanches, parfois même sur le mur directement, il écrivait au stylo.
C'est comment pour récolter c'est des écrits alors hein? Comment il fait pour récolter toute cette matière?
Dans les toilettes. Après, je sais pas quoi il fait. Ce sont des génies.
Bon, on arrive à la fin de notre enregistrement.
Il y a quelqu'un, ça aurait été intéressant de discuter avec lui, parce que c'est le cofondateur de Racontar en Algérie.
De quoi?
Racontar, je sais pas si ce festival. Oui, il faut faire les tests à 8h. Hein,
ouais. Ah. Ouais, mais là, ça va être un peu... Ça sera pour la prochaine fois.
C'est un parc. Tu connais ou pas? Celui qui est à gauche.
C'est lui ?
Ouais. Mais il connaît Tariq Teguia. Je vais lui demander comment il... Ah, vous connaissez ?
Non. Qui c'est qui connaît pas Martinez ?
Ça va ? Ouais. On va te poser quelques questions. Hein ? On va pas te laisser passer sans te poser quelques questions.
On peut lui poser une question ou pas ? Allez, Wahid. Ils ont fait un festival très intéressant.
Musicien, première école des Haussmann.
Ah. Et ils ont monté en Calabrie un festival qui s'appelle Racontar. Et c'est chaque été dans un village différent. Et ils font venir des films, des musiciens.
Où ça?
En Kabylie, mais à chaque fois dans un village différent. C'est un peu le Woodstock d'Algérie, quoi.
Vous
allez voir aussi un film de Wahib et Lo en première partie.
Il nous a invités pour faire un premier prélude, une entrée en matière avant la projection du son film. Un petit essai qu'on a fait en 2011 sur les mines de charbon de Jorada au Maroc.
Oh,
bien,
Ouais.
Et c'est Tahar qui va animer la discussion, parce que Tahar a une association qui s'appelle Archipel Images, où il fait circuler des films en Tunisie, en Égypte.
à l'école de la deuxième chance.
Mais on est dans un bon quartier là.
Vous habitez là?
Moi j'habite près de la gare. Près de la gare Saint-Jean. Mais ici c'est un quartier vraiment particulier.
Parce que
ici on sent le vrai mélange. Dans ce quartier-là, le café, le bar, il n'y a pas de problème.
Hein, c'est un vrai quartier.
Oui. Hein,
c'est vivant. C'est vivant.
Il y a de plusieurs couches, les gens, les Arméniens, les Comoriens, les machins. Voilà. Il y a un boulanger arménien, les Comoriens sont là, le pastis est là, il y a plein de trucs. Ça, c'est, ouais, c'est super. Hein. Ouais. Les gens sont. Je sais pas. Il n'y a pas de pression. Dans ce quartier, on ne sent pas la pression.
C'est convivial.
Oui, on ne sent pas la pression. Alors on peut changer de quartier si on veut. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Racontard?
Alors, oui, bon, deux mots, c'est difficile de dire deux mots simplement sur Racontard. Racontard, c'est un festival qu'on a mis en place en 2004, juste au lendemain de la. Quand il y a eu l'année de l'Algérie en France en 2003, hein, ici. Hein. Donc, moi, avec Hassan Metref, qui était un des grands piliers de l'animation culturelle en Kabylie, avec qui j'avais beaucoup de complicité, parce que quand j'étais au Beaux-Arts d'Alger, etc., on faisait plein de choses ensemble. Et pendant les années noires, ça a été complètement bouleversé. Il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était bloqué, les exils, etc. Et en 2003, on avait décidé avec Hassan Metref que s'il était possible de remettre les pieds dans le territoire où il était, quoi. La Kabylie en particulier, qu'il y a beaucoup plus de facilité parce que le mouvement associatif culturel est très présent. Moi et lui, à partir de Mantral et Mini. On a commencé en 2004 sans savoir qu'on allait perdurer. On a fait une première expérience en 2004 dans la commune des Beni-Yeni. On ne savait même pas qu'après il y avoir une demande chaque année, parce que c'est, nous on ne demande pas, on nous demande. C'est-à-dire qu'on change de village chaque année.
Ah, c'est intéressant ça.
Et on travaille avec les moyens des villages.
D'accord. En fonction.
Oui, oui. Donc on a commencé par. On était très peu nombreux. Bon, conférences, c'est une projection de films. Moi je faisais intervention institutionnelle. Moi je suis plasticien. J'étais professeur aux Beaux-Arts d'Alger, bon, artiste en exil. Donc j'intervenais dans un lieu public comme ça. Et bon, des débats. Et surtout, le principe, c'est de travailler avec la population, pour la population. Ce n'est pas un festival qui est fait pour qu'on dise « Allez, on va aller au festival à tel endroit ». C'est fait pour les gens du village.
D'accord.
Et les environs.
Okay.
C'est-à-dire que si Racontard se fait cette année à tel village, les gens qui vont venir d'ailleurs ne vont pas trouver où dormir, où manger. Et c'est fait pour les gens, avec les gens.
Ah ouais, d'accord.
Et on est hébergé dans les familles. Et on est nourri par les gens du village pendant une semaine. Et maintenant, nous sommes à peu près entre 250 et 300 participants. D'accord. Des bénévoles, entièrement. Congolais, Marocains, Tunisiens, Libanais. Mais des gens qui viennent, bon, qui se font aider par des associations, quelque part, de là où ils sont, pour les billets d'avion. Mais il n'y a pas de cachet, il n'y a rien.
D'accord.
Il y a des nouvelles générations super aussi qui arrivent avec le temps, maintenant des nouvelles générations qui bougent. Ce qui fait que pendant une semaine, on s'implique dans toutes les rues d'un village. Il n'y a pas de salle, c'est dans les rues.
D'accord.
Les différentes activités, bon, si, il y a des salles quand même, des scènes, disons, des scènes qui sont montées, comme c'est toujours au mois de juillet.
C'est en plein air.
C'est le plein air, les écoles sont libres. Parce qu'en Kabylie, en montagne, les écoles, c'est des grands espaces. Hein. Les collèges, etc., c'est des grands espaces. Ils ont vraiment. Alors donc, ça peut profiter pour installer des scènes. Ils sont habitués à faire des scènes en été, etc. Ce qui fait que, bon. Alors, on a des musiciens, des groupes qui se créent sur place, des fusions qui se font sur place. Bon, traditionnelles, modernes, etc. Ça, c'est. Mais avec les gens du village. Les gens, quand ils viennent pour la première fois là-bas, s'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je parle des participants. Hein. Il y en a qui. Voilà, on a un grand conteur congolais, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être il est souvent à Marseille, c'est Joris Mabiala. C'est un grand conteur congolais, lui. Alors lui, c'est le responsable de la nuit des contes dans notre festival. On a une nuit des contes, on a créé un carnaval, fabriqué sur place. entièrement. Dans chaque village, on peut.
À vous le monter sur place.
Oui, c'est-à-dire qu'on a relancé une vieille tradition antique berbère, mm-hmm. du carnaval qui se pratiquait aussi au Maroc, etc. C'est qu'on appelle Ayret dans la région de Tlemcen, et qui se faisait aussi un peu au Maroc. Aussi. C'est le
comme la Zerda.
C'est dans le carnaval, où ils gagnent les masques, ouais. avec le bekshkaïr, avec les peaux de chèvre.
Boussardien, nous, on a.
À peu près, Hagdak. Voilà, c'est la tradition boussardia, uh-huh. mais qui change de nom selon les régions. Uh-huh. Voilà, donc uh-huh. ça c'est dans la région de la région de autour de Tlemcen, la région berbère autour de Tlemcen, c'est qui ont à un moment de Yanaïr, qui font le Ayrat. Le prince Lyon, etc. Donc, on a repris cette tradition-là en l'adaptant au festival anglais avec des jeunes qui créent les masques avec la population, avec des peaux de mouton, avec des machins. Et on termine avec un truc dingue. Dingue. Là, l'année dernière, on était dans un patelage qui s'appelle Souama, qui était l'ancien centre du royaume berbère de Koukou. Et le royaume berbère de Koukou, la légende dit que ce roi-là avait eu comme cadeau deux éléphants. Donc nous, on a travaillé sur le thème de l'éléphant pour le carnaval. Ça, c'est des trucs. Enfin, ça, c'est, on a des amis tunisiens qui viennent maintenant chaque année, pareil, ça s'applique avec nous. Il y a des choses préparées, des choses
improvisées.
Qui se font sur place, c'est-à-dire ouais. C'est une richesse forte, c'est dingue, c'est comme ça. Et voilà. Vous mettez sur internet, le festival Rencontre en Kabylie, vous avez.
Projeter des films aussi ou pas? Projeter des films.
Oui, mais ça dépend des moments. Oui, on a dans l'espace en plein air là. Hein. Ça c'est difficile pour les films hein, parce que le public là-bas n'est pas habitué à des salles pour aller au. Donc vous pouvez projeter un film, mais si les gens peuvent discuter pendant tout le film. Hein. Yeah. On sort dehors, ouais. Les gens ils regardent le film de temps en temps. Ouais, ouais. Il faut qu'ils soient vraiment accrochés. Ça c'est.
Ouais, ouais.
Ça, c'est...
Bon bah merci. Ouais. Donc, on va y faire les tests techniques
bon,
pour okay. la
prochaine. Bon, allez, à tout à l'heure.
C'est à la fin de cette émission improvisée après un coup de promo de Racontard orchestré par David Dion. Hein. Donc voilà, c'était une émission sur le cinéma. On va aller faire la projection. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans 2 mois sur Radio Galère 88.4 à 21h30 le premier lundi du mois. Merci, au revoir.